ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
J'en ai pris conscience à l'entrée à l'école, parce qu'avant j'étais dans ma communauté, du coup je n'en avais pas forcément conscience. Quand je suis rentré à l'école primaire, les autres enfants étaient un peu distants avec moi. J'ai eu des remarques du genre que je sentais mauvais, qu'ils ne voulaient pas me toucher parce que j'étais sale. C'est plutôt pendant mon entrée à l'école. Et puis ça s'est poursuivi tout le reste de la scolarité en fait. J'ai même eu du harcèlement scolaire à cause de ça. Moi je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué quand j'avais 7-8 ans. On avait vu un panneau interdit aux chiens et aux gitans devant un terrain de camping. Et quand j'en ai reparlé avec une de mes tantes, elle se souvenait plus ou moins, mais ça ne l'avait pas forcément marqué en fait. Parce que pour nous c'est tellement courant qu'on ne fait même plus attention limite. On a appris à vivre avec.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du Mike qui commence. Aujourd'hui une émission qui va parler de lutter contre la stigmatisation de la communauté Rome. Avec nous dans les studios, c'est le retour du collectif En Place, mais pas que. Bonjour tout le monde.
Salut.
Ah, ça fait plaisir. Donc peut-être qu'on peut commencer par un tour de table, il y a beaucoup de monde, c'est ça la radio aussi.
Bonjour, je m'appelle Sandro, je suis d'accord comme t'es Rome. Ça fait 5 ans que je suis en France, même à Toulouse.
Bonjour, je m'appelle Alex et je viens de la Roumanie. Ça fait 8 ans que je suis en France et je connais plus la France que la Roumanie et yeah. J'aime bien la France.
Ouais.
C'est tout.
Ma chanette, je suis Antonio, je suis Galbania, qui m'a donné une tête de Toulouse.
Oui, bonjour, je m'appelle Marino, je viens d'Albanie. Ça fait 5 mois que je suis à Toulouse. Et je vais venir ici en France parce qu'on vit plus mieux. Pour ça, on a choisi la France pour venir, pour vivre.
En
Albanie, il y a de la discrimination, ça veut dire même pour scolariser, c'est très 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 compliqué pour toute la communauté rom, pour un travail, pour un hébergement, pour tout ça, c'est la discrimination pour toute la communauté rom, pour ça nous allons venir en France.
Super, merci Sandro pour la traduction de Marino. Et du coup, moi c'est Caro, je fais partie du collectif En Place, je suis avec Sacha, Alix, Mona et Tess. Je vais vous présenter un peu le collectif, enfin vous représenter le collectif. C'est un collectif de soutien aux habitants des squats et des plates, donc de Toulouse. Donc les plates, c'est un lieu de vie composé de divers types d'habitats, des caravanes, des baraques, des cabanes, des tentes sans tentes, sans droit ni titre, pardon, et autre terme aussi employé par les habitants, c'est le camping.
D'où vient le nom Plates ? Alors, semble-t-il, c'est associé au campement, c'est bidonville, que l'on appelle Plates, en utilisant le terme employé par les Ashkénazes dans les années 30 pour désigner le quartier juif du Marais à Paris. Le Plates, c'est une organisation sociale hiérarchisée qui offre un sentiment de sécurité physique et symbolique et un quotidien partagé par ses habitants-habitantes. Voilà, un petit point historique.
Notre collectif, il se définit comme un espace antiraciste qui cherche à confronter la mairie, la préf et plus globalement l'État face à la réalité de leur politique raciste et déshumanisante. En Plates, c'est pas le 115. En Plates, c'est pas des assistantes sociales non plus, ni la Croix-Rouge. On n'est pas là pour combler les manquements de l'État. Ce qu'on veut, c'est soutenir l'autonomisation des habitants afin de créer un rapport de force pour défendre leurs droits et en acquérir des nouveaux. On lutte contre toutes les formes d'enfermement et les politiques d'expulsion. Le collectif, c'est un outil pour soutenir les prises de parole des personnes concernées à travers des podcasts, des communautés de presse, des manifestations et aussi la radio. L'idée est que les personnes concernées puissent elles-mêmes porter leur voix et se faire entendre. Les personnes que l'on rencontre ont toutes des trajectoires de vie différentes. Ce sont par exemple les habitants du squat de Colomiers, rencontrés il y a 3 ans quand ils vivaient sur les berges de la Garonne, dont Sandro en faisait partie. Issus de communautés albanaises, ce sont majoritairement des familles déboutées du droit d'asile. Ou encore les anciens habitants du squat de La Porte, rencontrés il y a 2 ans avant l'incendie du squat de Babinet. La plupart d'entre elles, eux, viennent d'Afrique subsaharienne et ont une multitude de situations administratives différentes. Le collectif s'implique également auprès de plusieurs familles vivant dans des petites places, venant généralement d'Europe de l'Est. C'est le cas d'Alex, où ils sont régulièrement confrontés à l'anti-tsiganisme, qu'il soit institutionnel ou au quotidien. On essaye de s'adapter au quotidien et aux besoins des personnes. Ça peut être venir en soutien aux ouvertures ou aux expulsions. Les habitants, qu'ils soient en squat ou en plate, font régulièrement face à des expulsions plus ou moins violentes. Et on essaie donc de se mobiliser lors de ces expulsions pour dénoncer la répression policière, le harcèlement policier, pour parfois tenter de le limiter avec notre présence. On essaie aussi d'être présent aux ouvertures pour soutenir les personnes dans leur installation, les aider à trouver des meubles, matelas, après avoir souvent perdu la plupart de leurs affaires suite à leur expulsion, ça, on en reviendra tout à l'heure. Voilà, parce que ces moments sont difficiles et ça, donc ça nous tient à cœur de créer d'autres espaces. Depuis le début du collectif, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on a toujours voulu partager des moments conviviaux avec eux, faire la fête, dégoûter, plein de choses cool du quotidien pour essayer de le rendre un peu plus meilleur.
C'est vrai qu'on reproche typiquement à un collectif voilà, que vous pouvez représenter, une espèce d'instrumentalisation politique. Mais justement, c'est tout l'inverse. Revendiquer la solidarité, de faire avec les personnes. Si ça, c'est politique, bah évidemment que vous êtes un collectif politique. C'est naturel et évident. C'est la logique de l'accueil, du soutien.
Ça me rappelle ce que tu dis, Germain. Ça me rappelle les tweets de Moudinck.
Ouais,
ça me
voilà.
Fait sourire sur le fait qu'on se servirait de ces causes-là pour venir à nos fins politiques. Notre lutte d'ultra-gauche, ça me fait un peu rire.
Qui n'est que l'hospitalité, en fait. Donc, c'est, une nouvelle fois, si c'est des notions politiques perverties par l'extrême gauche, le problème, il est par la personne qui pense ça, en fait. Mais vous êtes collectif politique.
Oui.
Ouais.
Super. Et tant mieux. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là, parce qu'on est une radio politique et que cette émission est politique et que la politique est partout. Pour cette lutte précise qu'il va falloir définir, le mot anti-tsiganisme, il y a une espèce de confusion incroyable. Il y a des stéréotypes sur les communautés, dénominations culturelles comme gitan, manouche, rom, tzigane. Constitue aussi un imaginaire, il y a aussi une catégorie administrative, et ça c'est important parce que le droit français, à travers ses lois, est aussi force de répression. Pour la catégorie administrative, on utilise le terme nomade, gens du voyage, c'est encore une autre classification, et puis il y a un terme très péjoratif comme romanichel, puisque ça, c'est un mot qui n'existe pas, sauf dans le cadre d'une insulte. Donc je pense que c'est peut-être important de clarifier un petit peu ces groupes très différents.
Ouais, en fait, le terme rom, il désigne historiquement l'ensemble des populations de culture romani, dont il y a une langue commune qui s'appelle le roman. Et comme tu disais, il existe 5 ethnies différentes. Les Yéniches, les Manouches, les Gitans, les Sintés et les Roms. En fait, ça fait longtemps que l'État, il essaye de créer un mythe autour de l'unicité de ces populations romanies. Et c'est ça, du coup, qui stigmatise un petit peu ces populations. Et ça me fait penser qu'un ami aussi qui devait être là, qui vient de Macédoine mais qui n'a pas pu venir finalement, il me disait que ce qui reliait en fait toutes ces ethnies, c'est le drapeau commun en fait. Parce que je lui demandais qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir en commun, par exemple, avec un gitan qui habite en France depuis très longtemps et qui habite pas du tout dans les mêmes habitats, qui parle romane mais pas de manière quotidienne non plus. Donc et voilà, il me disait que du coup, c'était quand même, il pouvait se sentir très proche lui de lui comme comme un frère et que c'était vraiment le drapeau qui le reliait surtout. Et le terme rom désigne aussi les personnes arrivées plus récemment en France d'origine d'Europe de l'Est. Ils peuvent se faire appeler Roms français ou parfois Roms hongrois. Et ce sont les personnes que l'on connaît avec le collectif et qui vivent dans des squats et des plats de Toulouse. Et en fait, ces populations-là, elles sont sédentaires dans leur pays d'origine.
Pour le mot tzigane, on entend souvent le terme pour parler de ces personnes, mais ce mot est décrié par une partie des concernés, donc pas tout le monde, mais par quand même une bonne partie. Ce terme, en fait, il renvoie à une catégorie, à un statut racial pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi lié à l'esclavage des Roms en Roumanie. Il reste encore très peu étudié, l'esclavage des Roms en Roumanie, alors qu'il a débuté à la fin du XIVe siècle et s'est terminé officiellement en 1856. C'est donc presque 5 siècles d'esclavagisme des communautés Roms. Donc connaître et ne pas oublier cette histoire permet de mieux comprendre les réalités socio-économiques actuelles des Roms en Roumanie.
On retrouve un anti-tziganisme systémique. Et le racisme envers les personnes romanies est l'un des racismes les plus décomplexés et banalisés en France, comme on le remarque.
Ani jomena ne soha, i oni juda kuter maru jaj, u bahari izbi bahta alu. Jaj sarme jek farkere djavo, le bahari murdarava.
Je pense qu'il est important de revenir sur l'aspect historique pour mieux le comprendre. En allant dans les squats et dans les plats, on a très vite remarqué une sorte de défiance collective des personnes envers les autorités et l'administration française. Et en fait, cette défiance, elle s'explique par l'histoire, une histoire commune vécue par toutes les communautés romanies. À la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des Roms étrangers, et à cette époque, on les appelait les bohémiens étrangers, le débat politique s'est cristallisé autour du contrôle de ces populations.
Il y a une loi, en fait, la loi du 16 juillet 1912, autour de l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades, qui officialise en quelque sorte l'anti-tziganisme ambiant. Cette loi, l'État va catégoriser toutes les personnes romanies dans 3 catégories administratives différentes. Alors il y a les marchands, les forains et les nomades. Les marchands et les forains, eux, vont être reconnus comme d'honnêtes commerçants, tandis que les nomades vont être considérés comme les étrangers de l'intérieur. Donc dans ce décret de 1912, on a une définition du nomade. La voici.
Ils sont généralement des roulottiers qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni patrie. La plupart vagabonds, présentant le caractère ethnique particulier aux romanichels, bohémiens, gitans. Sous l'apparence d'une profession problématique, traînent le long des routes sans souci, des règles de l'hygiène, ni des prescriptions légales.
En réalité, il va y avoir toute une stigmatisation de ces personnes à travers le carnet anthropométrique. Donc ce carnet, c'est en quelque sorte l'ancêtre de la carte d'identité. Les populations nomades vont avoir une carte à montrer à chaque arrivée et départ du territoire. Et elles devront pointer régulièrement au commissariat. Sur cette carte sera présente le nom, le prénom, l'origine, l'âge, et c'est pas tout, la circonférence de la tête, toutes les mensurations du corps et les 10 empreintes digitales. Et il faut savoir que ce traitement, à l'époque, était utilisé jusqu'alors que pour le fichage des criminels. Et là, donc on le voit sur des populations nomades. Cette loi est donc profondément discriminatoire. Elle crée un statut pour une communauté supposée donnée, définie dans des termes ethniques qui déterminent l'existence d'un groupe à part de la population française. Donc elle participe bien évidemment au contrôle des masses des communautés romanies.
«
Et suite à cette loi, il y a un basculement en 1940 avec une interdiction nationale de circulation des personnes nomades sur le territoire français. Ces personnes vont être assignées à résidence et surveillées. Donc les préfectures, elles vont s'octroyer le droit de faire rentrer dans cette catégorie de nomades toutes sortes de personnes indésirables. Donc il y a des personnes gitanes, des manouches, des roms étrangers, tant bien même que ces personnes sont sédentaires depuis des années, voire des décennies. La panique va alors s'emparer des personnes, certaines d'entre elles vont même brûler leur caravane pour pas être affiliées à des nomades. La raison officielle donnée par l'État, c'est les nomades seraient des espions en puissance et renseigneraient les ennemis pendant la guerre.
Donc les conséquences sont-elles bien réelles et désastreuses? Cette assignation à résidence des personnes nomades va conduire à une famine généralisée. Les adultes vont plus pouvoir sortir de leur territoire pour faire des travaux ou le travail. Et donc les premières victimes en seront les enfants, puisque pas de nourriture apportée dans les foyers.
Alors après, ça va dépendre des préfets, mais en général, les personnes nomades, elles vont être internées de force dans des camps d'internement. C'est en fait une initiative allemande, mais qui est tout de même appliquée par les autorités françaises. Et d'après nos recherches, les chiffres sont assez flous, mais il y aurait eu 40 camps en France qui ont interné des nomades. Il y a eu au moins 7000 internés et ces camps étaient sous administration française.
Les nomades sont la catégorie d'internés qui se sont le plus évadés de ces camps. Donc manifs, insurrection dans les camps, arrêt du travail forcé. En tout cas, c'était les personnes qui étaient les plus revendicatrices.
Et un certain nombre de nomades ont été déportés de la France vers les camps de concentration allemands. Et la moitié des pendant la Deuxième Guerre mondiale, la moitié des personnes dites ciganes vivant en Europe a été assassinée par les nazis et leurs complices. Auschwitz hat den Kerbaro, Odoi Beshem Ropirano, Beshel Beshel Gondoline, Hey, apremande pobistere. A tu calo ci ricordo, li già manghem roli loro, li già mre a romniacche, hoi son pamo auschwitzate, auschwitzate bare bocca, a sote chala menane. Anio da coter maro, hey, o bachari, li bachtalo. Ya yo da calo, chiri cloro, li jal mange, mro li loro. Li jal mra romnyake, ho, ime besham. Ušvicate, ja ju švicate bare boka, a nije mena ne soha, ja nije da koter maro jaj, o bahari izbi bahtalo. Jaj sar me jek far kere djavo, le bahari murdarava. Sar me jek far kere djavo, jaj, le bahari murdarava. Ja la 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 la. La 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 la, da la la la. Oh ya la 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 la. La 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 la, da la la.
La particularité de cette persécution des nomades en France, c'est qu'elle a commencé avant la guerre et qu'elle a fini bien après. En 1946, les personnes ont été libérées des camps, soit un an après la fin de la guerre. Et elles ont donc vécu 6 ans d'enfermement forcé, de 1940 à 1946. La longueur de cette séquence de persécution des nomades par les autorités françaises souligne bien que la responsabilité n'en incombe pas intégralement à la mise en œuvre en France de l'idéologie nazie. En France, il faudra attendre le 3 janvier 1969 pour que le décret soit abrogé. Et cette loi va remplacer le terme de nomade par gens du voyage. Alors moi, j'avais rencontré des personnes dites gens du voyage qui m'avaient dit qu'ils préféraient qu'on les nomme voyageurs. L'administration française cherche alors un mode de gestion nouveau des populations itinérantes qui prendra la forme d'une politique des aires d'accueil. Et en fait, ces aires d'accueil, elles sont aussi décriées car elles sont un outil de gestion de masse des populations.
Bien sûr, de contrôle, ouais.
De contrôle.
Surveillance.
Ouais. Exactement. Ouais. Les gens du voyage ont certes le droit de voyager, mais uniquement d'un terrain désigné à un autre, à savoir d'un terrain surveillé à un autre. L'obligation qui leur est faite par la loi de ne vivre que sous surveillance des gadgets constitue une forme d'assignation à résidence perpétuelle. Et ça, c'est tiré d'un livre de Lise Foisenon, et le livre s'appelle « Cumpagna, vivre et résister en pays gadjo ». Et ces aires d'accueil, elles sont réservées aux communautés romani ayant des papiers d'identité français. Et en fait, les personnes qu'on connaît dans les plates et les squats, elles n'ont pas accès à ce type d'habitat et elles subissent des pressions supplémentaires du fait de leur potentiel statut irrégulier sur le territoire. Et pour finir, à l'heure actuelle, la spoliation des biens des personnes romanies n'est toujours pas reconnue en France. Il n'y a aucune indemnisation financière ou matérielle et le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère discriminatoire de certaines lois à l'égard des personnes roms. Donc c'était un petit passage historique aussi pour rappeler comment peut-être s'est construit l'anti-tsiganisme qui date d'il y a fort longtemps et qui est inscrit dans notre territoire, dans notre société. Et voilà, on a trouvé ça important de rappeler ça parce que moi j'en ai très peu entendu parler, même à l'école ou dans des discussions, donc on trouve ça important de le faire ressortir.
Ouais, puis c'est toujours important aussi de se tourner vers l'histoire pour comprendre le présent. Notamment, il a été évoqué cette idée raciste de catégorisation. Et on se rend bien compte que les lois de contrôle de l'immigration reprend en fait cette idée de catégorisation. Donc on va nommer des utiles et des inutiles. Donc on est toujours quand même dans cette logique de tri d'êtres humains.
Tú eres una cigüeña.